Donc c'est les épîtres de Paul et à Tite et à Timothée. Ce sont les épîtres qu'on appelle les épîtres pastorales. Elles sont écrites à des pasteurs et visent à exposer la bonne conduite de l'Église. Dans le chapitre 3, au verset 15, Paul dit « Si je tarde, et si je tarde, verset 15, « Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Donc, dans ce chapitre 2, l'apôtre Paul traite du rôle des hommes et des femmes dans l'Église. Et je vous propose d'en faire la lecture à présent. Chapitre 2. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et dans la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole, parce qu'elle est la vérité, parce que tu nous l'as laissée pour notre instruction. Merci Seigneur, parce que au travers de ces épîtres de Paul à Timothée et à Tite, Seigneur, tu nous donnes de savoir comment il faut nous conduire dans l'Église. Et Seigneur, on veut te prier de nous soutenir, de nous aider à comprendre ta parole et de la mettre en pratique, Seigneur, dans notre Église. Béni sois-tu encore pour l'éclairage que tu nous donnes et le soutien que tu nous apportes pour prêcher ta parole par Jésus-Christ. Amen. Vous avez compris que ce n'est pas un passage facile et que je marche ce matin sur des œufs. Et j'espère pas finir en omelette. Le passage ici se découpe un peu en trois parties, je dirais. Les premiers versets, verset 1 à... Alors là, j'entends plus rien là. Vous m'entendez encore là ? De verset 1 à 7, je vous entends plus moi. Je m'entends plus en tout cas. Verset 1 à 7, l'apôtre évoque ici tout l'aspect de la vision de l'Église. Il rappelle ça et il leur demande de prier. Dans les versets 8 à 10, il parle plutôt de comment est-ce qu'on doit vivre dans l'Église. Ce sont plutôt des recommandations sur l'état de notre cœur. Et puis les versets 9 à 15, l'apôtre, ici, il va aborder les questions du rôle des hommes et des femmes. Donc, le thème principal, je pense, dans ce chapitre, c'est celui qu'on trouve ici affiché lorsque hommes et femmes servent selon les rôles que le Créateur a attribués à chacun. Mais pour bien comprendre le rôle attribué à chacun, d'abord, il faut être mobilisé autour de la vision, de la même vision, une vision qui est partagée et que l'on va porter tous ensemble. Et puis, animé donc de la bonne attitude pour le faire, et puis ensuite impliqué selon les rôles que le Seigneur nous a attribués à chacun. Tout d'abord, regardons cette première pensée, une immobilisée autour de la vision. Les épîtres de Paul expliquent cela souvent, mais ici, il fait un zoom dans les versets 3 à 7 sur la vision que le Seigneur nous a laissée. Sur le chantier d'une cathédrale, un architecte voulait comprendre pourquoi les performances de ses ouvriers étaient pour les mêmes tâches très inégales. Alors il est allé trouver le premier ouvrier qu'il trouvait en train d'entasser des pierres et puis de coller tout ça avec du mortier. Et puis il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Ouais, il dit, vous voyez bien, j'entasse des pierres, j'essaie de faire un mur là pour gagner ma croupe, quoi. Ouais, c'était évidemment pas très droit, le truc. Il est allé trouver un deuxième ouvrier, il dit, mais, et toi, qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais ça se voit, le mur était bien plus droit, là. Il dit, mais moi, je suis en train de construire un mur, ça se voit, et ça, c'est mon responsable qui m'a demandé de construire ce mur. Puis il va voir un troisième ouvrier. Là, le mur est vraiment, vraiment bien. Et puis le gars, il est à fond. Et il dit, et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je bâtis une cathédrale merveilleuse. Et puis il va voir un quatrième gars. Là, le gars, il est à fond. Puis il a une joie. Et puis il dit, toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je travaille pour la gloire de Dieu. Je sers Dieu, je glorifie Dieu. Et donc, ça nous aide un peu à comprendre que la vision partagée par tous les acteurs permet à chacun de situer sa pierre dans la cathédrale. Tous ici, on est en train de travailler dans une œuvre. Et parfois, on est obligé, on oublie ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de construire, ce qu'on est en train de bâtir. Et donc, parfois, on se décourage, ou parfois, on travaille dans son coin, on s'occupe pas des autres. Parfois, on se décourage et puis on avance plus, quoi. On fait plus le travail. Et donc, l'apôtre, ici, pour pouvoir remettre tout le monde en travail et en œuvre, il rappelle la vision. Et la vision qu'il nous donne ici, et c'est une vision qui est bonne, qui est agréable devant Dieu, notre Sauveur, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son temps, et c'est là aussi pour laquelle l'apôtre, il est ambassadeur, chargé d'instruire l'Église. Et donc nous sommes dans ce travail-là. Notre vision, c'est celle-là. Quand on vient vous demander, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je travaille pour la gloire de Dieu. Je suis en mission pour pouvoir annoncer l'Évangile dans ce monde et faire connaître le grand roi, le Seigneur, le Sauveur. Et donc, c'est l'apôtre Paul, il répond à cette question, où allons-nous ensemble? Et comment et pourquoi? Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et qu'est-ce que l'on poursuit? Quel est le but de l'Église? Ce que nous faisons dans l'Église et la manière dont nous le faisons dépend vraiment de notre compréhension et de notre appropriation de la vision de l'œuvre qui est en train d'être accomplie. On ne peut pas dire que c'est la faute de ces ouvriers, il y en a un qui entasse des pierres avec du mortier, et puis un autre qui bâtit un truc pour son chef. Non, c'est pas de leur faute, c'est la vision qu'on leur a donnée. Et donc l'idée, c'est que chacun d'entre nous capte la vision du travail pour pouvoir travailler de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. À l'EBTM, on a écrit cette vision de l'Église avec nos propres mots. Et vous retrouvez cette formulation régulièrement sur nos documents, l'annuaire ou les cours découvertes. Faire par l'Évangile dans Toulouse Métropole et dans le monde des disciples de Jésus-Christ qui célèbrent la gloire de Dieu par leur vie transformée et la joie de le servir en Église. Voilà ce que nous faisons. Voilà ce que nous sommes, dans quoi nous sommes embarqués. Voilà ce que nous poursuivons comme but. Voilà cette tâche immense que nous sommes en train d'accomplir. Et cette tâche, elle connaît une opposition constante. Paul appelle ce travail le bon combat dans les versets 18 et 19 du chapitre précédent. Il est facile de se tromper de combat ou bien de cesser de combattre, surtout si on en perd de vue la vision. Et donc c'est une œuvre spirituelle. Cette œuvre, elle nous dépasse. Mais cette œuvre, Dieu veut que nous l'accomplissions, nous en tant qu'hommes, femmes, pécheurs, mais rachetés par sa grâce. Et ça nécessite la prière. Et la manière dont l'apôtre Paul, il veut essayer de mettre toute cette vision sur le cœur de toute l'Église à Éphèse, eh bien, c'est de les mobiliser dans la prière, et c'est ce qu'on voit dans les premiers versets. Il dit « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. » Avant toute chose, c'est une œuvre impérieuse. Et en fait, la prière joue ce rôle. Quand on commence à prier pour tous les hommes, on commence à concevoir le plan de Dieu et on garde la vision de Dieu. On est en train de travailler à une œuvre excellente. On commence à mettre sur nos cœurs le fardeau de Dieu. Il semble que la prière pour tous les hommes avait été abandonné dans l'église d'Éphèse, puisqu'il met ça en priorité pour l'église. Certainement, les faux docteurs dont on a parlé la semaine dernière, les judaïsants, avec leur évangile perverti et leur conception du salut comme réservée aux juifs, avaient sans doute restreint la prière eh bien, à leur seul bénéfice. En fait, quand tout est centré sur moi, toutes mes prières le sont aussi. Je prie pour moi, pour ma famille, pour moi, et pour mon travail, et pour mes études, et pour ceci. Et c'est moi. Et dans ce cas-là, chacun a des prières différentes. Et chacun a comme vision, comme but, soi-même. Et donc ça ne marche pas. Et donc, Paul, il dit, priez pour tous les hommes. Et là, quand on commence à penser de cette manière-là, à prier pour tous les hommes, nos regards sont portés vers Christ. Et puis on s'attend à lui. Et puis on veut qu'il intervienne. Et puis qu'il glorifie son nom. Puis il dit ici, faites-le avec des supplications. Considérez la condition de vos semblables et venez dans l'intimité de Dieu et plaidez pour leur salut. Les supplications, elles viennent dans nos cœurs lorsque l'on s'approche de la souffrance et de la misère humaine. Considérez la vie de ces jeunes femmes prostituées qui sont à nos portes, victimes du trafic humain. Écoutez leurs histoires et suppliez Dieu d'intervenir en leur faveur. Considérez les réfugiés de guerre qui se massent dans nos villes. Ils ont tout laissé, culture, terre, famille, biens, maisons, professions, entreprises. Et ils sont souvent là, mal accueillis, mal compris, avec tout un tas de difficultés. Si on prie pour ça, on saisit la vision de Dieu pour l'Église et puis on s'y engage. Nos efforts pour porter l'évangile dans les cœurs doivent s'étendre à tous les hommes. Et puis Paul, il ajoute même pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, c'est-à-dire pour ceux que l'on tient responsables bien souvent de nos propres misères. Ils ont parfois de l'hostilité, nos autorités, c'est pas le cas à Toulouse, merci Seigneur, envers Dieu et envers les chrétiens. Et puis ils sont souvent l'objet de notre amertume ou de notre animosité plutôt que de nos prières. Et Paul dit, eh bien, priez pour eux. Pour qu'ils connaissent aussi l'Évangile et qu'ils nous permettent de vivre une vie paisible et tranquille. Dans l'Église, tout ce que l'on fait doit servir cette vision. Le moment de café, avant nos cultes, l'accueil, nos chants, nos prières, nos prédications, nos relations les uns avec les autres, nos cellules, nos sorties auprès des prostituées, des migrants, notre implication dans le travail social, main tendue ou autre, tout cela doit servir cette vision. Ensuite, l'apôtre Paul fait des recommandations sur la bonne attitude de cœur dans les versets 8 et 9. Il dit notamment, il commence avec ce verset 8 en disant « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Donc ici, il aborde plutôt la question de l'attitude du cœur. Et quand Paul dit « je veux », ce n'est pas simplement Paul qui parle, hein, c'est Dieu qui parle. Il met ici toute son autorité d'apôtre. Regardez le verset précédent, il dit hein, « Pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et dans la vérité. » Et puis le premier verset de l'épître dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. Par ordre de Dieu. Quand Paul parle ici, ce n'est pas ses idées qui lui passent par la tête. C'est ce que Dieu veut pour nous, pour notre Église. Paul a été taxé de misogynie à tort. Il est l'auteur d'une grande partie du Nouveau Testament et c'est par le christianisme que la femme a été élevée. Hein. C'est encore le cas dans le monde entier. Et donc Paul dit « je veux » et il va s'adresser d'abord aux hommes. Ici, c'est vraiment aux hommes en opposition aux femmes, hein, c'est au mâle. Il demande donc d'accomplir ce ministère de prière en élevant des mains pures. Ce n'est pas tant la posture que Paul qui semble importante aux yeux de Paul plutôt que l'attitude de cœur. Nos mains pures représentent une vie sainte. Les mains pures, c'est un cœur pur. Et puis, il dit sans colère, ni mauvaise pensée. Sans colère, ni mauvaise pensée. Ce qui rend nos prières inefficaces, c'est un cœur souillé. C'est la colère, c'est les mauvaises pensées. Alors, messieurs, réfléchissons un peu à ce qui pourrait faire obstacle à nos prières. Et venons à Christ qui pardonne nos fautes, qui nous purifie, qui nous lave de toute souillure. La bataille se livre dans nos propres cœurs et dans nos pensées. Et puis il vient parler aux femmes. Certaines femmes, visiblement, vivaient de façon oisive. Elles étaient bavardes et indiscrètes. C'est ce qu'on trouve dans le chapitre 5. Je vous lis juste quelques versets, verset 6. Il dit, mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Et puis, au verset 11, il dit encore, mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache de Christ, elles veulent se marier, se rendre coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Avec cela étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne se donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Et donc ici, il va aussi aborder la question de l'attitude. Et donc ces femmes, certainement qu'il reprend, mais peut-être il a toutes les femmes en tête. C'était cette mauvaise attitude de ces quelques femmes affectait, au fond, les cultes. Elles devenaient un sujet de distraction pour les fidèles. Et au verset 9, donc, il rappelle la nécessité de la décence, de la pudeur, de la modestie. Au fond, tout ce qui pourrait détourner la tête d'un homme ou d'une femme sur votre personne plutôt que sur Dieu qui sont venus adorer. Tout ça, ça doit être proscrit. Si vous avez des vêtements qui couvrent pas vos charmes, la tête des hommes, mesdames, va être détournée sur vous. Ils sont venus pour adorer Christ. C'est pas bien. Ou si dans vos tenues c'est tellement sophistiqué que toutes les femmes vous regardent en disant waouh la coiffure, waouh la tenue, etc. Vous détournez ces femmes de l'adoration qui est due à Dieu. Et c'est cela qui est néfaste. Et ça, ça dessert l'Évangile. Voilà, Dieu est attentif à nos attitudes de cœur. Et puis, enfin, impliqués selon nos rôles, nous, on a besoin de bien comprendre les rôles de l'homme et de la femme. Et ça, ce sont les versets 10 à 15. Dans une œuvre aussi grande qui est la nôtre, une mission, une vision aussi grande, tout le monde n'a pas la même fonction. Mais on a besoin de tout le monde, parce que tout le monde est utile. Tout le monde a été doté d'un don qu'il doit mettre au service du Seigneur. C'est pas un passage facile, et j'aimerais, si vous le voulez bien, tenter d'exposer la pensée de Paul, et ensuite de faire la synthèse en établissant les rôles des hommes et des femmes. Alors commençons par le verset 11. Il dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Paul commande ici d'enseigner les femmes dans l'Église. C'était révolutionnaire pour l'époque. Dans le monde judéo-chrétien au 1er siècle, comme ça l'est aussi dans certaines cultures aujourd'hui, on n'envoie pas les filles à l'école jugeant que ça n'est pas utile. Paul, lui, il est soucieux de l'enseignement des femmes, comme des hommes, bien entendu. Il veut qu'elles soient bien enseignées, parce que la connaissance de Dieu et de sa parole favorise l'adoration. Il dit en silence, le mot ici c'est tranquillement, c'est le même mot que dans le verset 2. Avec une entière soumission, je crois que ça devrait être l'attitude de tous, dès que la parole est prêchée, avoir une attention, un respect, et puis un désir de se plier notre volonté à la parole de Dieu. Mais j'y vois aussi une recommandation à l'adresse de ces femmes causeuses, que Paul demande de venir dans les assemblées pour qu'elles entendent et qu'elles écoutent la parole. Et cette recommandation facilitera leur intégration dans les assemblées. Et puis, au verset 12, Paul présente deux restrictions dans le rôle des femmes. D'abord, celui d'enseigner l'assemblée. Il dit « je ne permets pas », les mots veulent vraiment dire ce qu'ils veulent dire. Il ne permet pas aux femmes d'enseigner. Et pourquoi une chose comme ça? Le mot pour enseigner, c'est cet enseignement d'une fonction officielle dans l'Église, un docteur. Ce n'est pas que les femmes ne peuvent pas ou ne peuvent jamais enseigner dans l'Église. Je pense qu'elles le font d'une certaine manière. On a des exemples, par exemple, avec Aquilas et Priscille, son épouse. Ils vont prendre chez eux un certain Apollos et puis ils vont l'enseigner plus particulièrement dans les Écritures. Donc, ailleurs... Dans le livre de Tite, Paul dit que les femmes les plus âgées doivent enseigner les plus jeunes. Donc, il y a une part pour l'enseignement où les femmes doivent enseigner. Mais pour ce qui concerne Priscille et Aquilas, ils l'ont fait en privé et non lors des assemblées plénières de l'Église. Ça ne signifie pas non plus qu'elles sont moins capables que les hommes dans ce domaine. La question est de savoir où il convient pour elles d'exercer leurs dons. La deuxième restriction, c'est de prendre autorité sur l'homme, toujours dans le verset 12. Dans l'Église, Dieu ne veut pas que les femmes prennent autorité sur l'homme parce qu'il a confié aux hommes la direction de l'Église. C'est ce qu'on voit dans le chapitre suivant, chapitre 3, verset 2. Il dit que il faut que les évêques, les anciens, soient irréprochables et qu'ils soient maris d'une seule femme. Puis au verset 5, ils doivent diriger leur propre maison, parce que s'ils ne dirigent pas bien leur propre maison, comment prendront-ils soin de l'Église? Donc diriger l'Église. La prérogative ici, c'est de diriger l'Église. Paul justifie ce rôle de subordonné de la femme dans les versets 13 et 14. Et donc il va employer deux arguments pour cela. Le premier argument que l'on trouve au verset 13, c'est l'argument créationnel. Il dit: car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Quelqu'un un jour m'a dit, oui, mais culturellement, c'est pas la même chose. Quand Paul il a écrit, c'était il y a 2000 ans et aujourd'hui on vit une situation différente. Mais regardez bien, il semble que les difficultés à Éphèse sont les mêmes qu'on peut trouver dans notre société. Les cœurs n'ont pas changé, ni celui des hommes, ni celui des femmes. Et l'apôtre Paul, il va prendre un exemple. Et quel exemple il prend? Il prend Adam et Ève. Lui, il remonte au moins 4000 ans avant. Et il prend les premiers hommes pour montrer que c'est pas simplement... une situation particulière d'Éphèse qu'il est en train de traiter, mais une situation de l'humanité tout entière. Et il va même plus loin. Il prend le cas d'Adam et Ève avant la chute. C'est-à-dire que tout ce que l'on voit depuis, ça a été corrompu. Mais là, il prend le modèle d'Adam et Ève avant la chute, de sorte que c'est normatif pour toute l'humanité. Waouh! C'est son plan parfait. Hommes et femmes sont parfaitement égaux en valeur et en dignité, puisqu'ils ont tous les deux été faits à l'image de Dieu, Genèse chapitre 1, verset 27. En Genèse 2, qui fait un zoom sur la création de l'homme et de la femme, nous apprenons que Dieu a fait l'homme en premier, et puis il a tiré la femme de l'homme. Dieu aurait pu faire l'homme et la femme en même temps, mais la femme a été créée après l'homme, elle a été créée de l'homme et pour l'homme, comme aide complémentaire. Comme semblable à lui, une aide semblable à lui, dit-il. Donc ce qui n'a pas de caractère, le fait d'être une aide n'a pas un caractère péjoratif, puisque toutes les autres mentions de l'aide sont employées pour Dieu. Parfois c'est indéfini, mais toutes les autres, chaque fois que c'est défini, c'est Dieu. Donc si Dieu est notre aide, ça n'est pas péjoratif que de dire que la femme est l'aide de l'homme, d'accord ? En employant cet argument de la création, Paul montre qu'il ne s'agit pas d'une question de culture ou d'une situation propre à la ville d'Éphèse au 1er siècle, mais bien un principe universel qu'il énonce. En remontant à Adam et Ève, il est en train de dire « c'est pour tous les temps, en tout lieu ». Et le deuxième argument qu'il emploie, verset 14, c'est à cause de la chute. Il dit « Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. » Et certains commentateurs pensent que Paul évoque ici une tendance à céder à la tentation plus prononcée chez la femme. Mais bon, la réalité est que hommes et femmes sont tout autant sujets aux tentations. Peut-être pas aux mêmes, mais il n'y en a pas un pour relever l'autre. En fait, la chute corrobore le plan créationnel de Dieu. Par nature, Ève n'était pas destinée à assumer la plus haute responsabilité au sein du couple. Et en s'écartant de la protection d'Adam, en usurpant ainsi son rôle de responsable, elle s'est rendue vulnérable et a chuté, confirmant de ce fait qu'il était important qu'elle demeure sous la protection de son mari. Adam non plus n'a pas assumé son rôle, puisqu'il a suivi Ève dans la désobéissance et a ainsi plongé toute la race humaine dans le péché. Dans Genèse 3, au moment de la chute, quand Ève apporte le fruit, il est dit que, la Bible dit que Adam était auprès d'Ève. C'est-à-dire, c'est pas qu'il était complètement absent, qu'il était dans les affaires, servant Dieu. Et... Non, il était là. Il regardait sa femme désobéir, puis il n'a rien dit. Et donc, la chute a été provoquée par l'abandon des rôles attribués par Dieu à chacun des deux sexes. Toute la Bible tient l'homme pour responsable de la chute, pourtant. Le péché est entré dans le monde par un seul homme. Jamais il fait mention de la femme. Pourquoi ? Parce que au commencement, Dieu avait établi Adam responsable. Et donc, tout au long de la Bible, il va va maintenir cette responsabilité. L'homme n'a pas pris soin de conduire, de protéger la femme, et la femme s'est écartée de son rôle d'aide auprès de l'homme. Tout cela, c'est le résultat, la chute, c'est le résultat direct d'un abandon des rôles attribués par Dieu à chacun des deux sexes. Verset 15. Wow. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Est-ce à dire que les femmes sont sauvées des conséquences du péché en devenant mère? Non. Est-ce que ma femme qui a eu 5 enfants était plus pécheresse que les autres? Non, je ne crois pas. Non, le salut s'obtient par la grâce seule, au moyen de la foi seule. Toute la Bible est tellement claire sur le sujet. Sauvé, dans le mot sauvé, qui signifie aussi préserver. mise en sécurité de tout danger. Et Paul parle ici en termes généraux. Dieu n'exige d'aucune manière que toutes les femmes se marient. Il permet que certaines restent célibataires. Et il permet parfois qu'une femme mariée n'ait pas d'enfant. Et des chrétiennes pieuses. Néanmoins, les mères, d'une manière générale, entretiennent un lien d'intimité unique avec leurs enfants. Elles passent avec eux bien plus de temps que les pères. Leur influence est donc infiniment plus forte et porte une responsabilité particulière, celle d'élever les enfants dans la sainteté. S'il est vrai que la femme a fait tomber l'humanité dans le péché, les femmes ont reçu aussi le privilège de tirer beaucoup d'hommes hors du péché en les conduisant à Christ. Alors les rôles maintenant. Si j'essaye, on a le passage en tête, essaye de tirer toutes les informations pour les rôles. D'abord les hommes. Si je comprends bien le verset 8, dans les réunions publiques, lorsque l'Église se réunit pour adorer, c'est aux hommes qu'il revient de conduire la congrégation dans la prière. Il ne parle pas ici de réunion de prière où tous, hommes et femmes, sont invités à faire monter leur prière au Seigneur, mais plutôt lorsqu'il s'agit de faire une prière au nom de toute la congrégation, ou de conduire. Et puis au verset 12, il dit, c'est aussi qu'aux hommes que revient la charge d'enseigner publiquement l'Église. Et puis, toujours dans le verset 12, c'est aussi aux hommes qui est confiée l'autorité de l'Église. Ils doivent donc veiller particulièrement sur l'Église et la diriger. De ce fait, les rôles de président, de prédicateur, de pasteur, d'ancien sont réservés aux hommes et encore pas tous. On verra ça dans deux semaines. Nous verrons qu'ils doivent aussi satisfaire un certain nombre de qualités. Les femmes, elles doivent enseigner d'autres femmes et travailler à former des disciples. Elles peuvent le faire en particulier lorsqu'elles sont accompagnées de leur mari, qui là, c'est Priscille, en était un exemple. Mais peut-être dans le fonctionnement de notre Église, souvent les préparations au mariage sont faites par des couples. Et la femme enseigne, et puis aussi bien que le mari. La formation de disciples, l'accompagnement, le suivi de couple. Et puis verset 10, il dit qu'elles sont appelées à pratiquer de bonnes œuvres. Si je reprends 1 Timothée chapitre 5, verset 10, il dit qu'elles soient appliquées à toute bonne œuvre, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonnes œuvres. Elles doivent pratiquer des bonnes œuvres. Nous avons lu dans nos cellules, ces dernières semaines, des témoignages de femmes. Elisabeth Fry, Mathilda Vred, Joséphine Butler, Pandita Ramabai, elles ont accompli, encore très jeunes, de grandes œuvres dans l'éducation, dans le secours des plus démunis, dans les prisons, auprès des personnes en situation de faiblesse, des prostituées. Les femmes ont été créées avec pour accueillir et puis pour donner la vie. Elles ont été créées avec un utérus. Et puis, elles ont été créées pour nourrir avec des seins, pour prendre soin avec une sensibilité et une douceur particulière, pour aider avec leur intelligence et leur joie. Et je crois que l'Église d'Éphèse d'hier, comme pour la nôtre aujourd'hui, les femmes doivent jouer un rôle essentiel dans ce domaine afin que la puissance et l'efficacité de l'Évangile soient ainsi démontrées. Mesdames, vous servez admirablement lorsque vous enseignez le français à des étrangers dans l'Église. Lorsque vous enseignez la Bible à des femmes qui ont quitté le trottoir. Lorsque vous les visitez dans leur misère. Lorsque vous pourvoyez aux besoins des chrétiens, des saints, en vêtements, en nourriture, en secours, en aide, en consolation. et de ceux qui ne le sont pas encore chrétiens. Vous servez merveilleusement le Seigneur et son évangile lorsque vous participez à la culture et à l'éducation des personnes défavorisées. Lorsque vous servez, comme dans l'association Main Tendue, dans la préparation et la distribution de repas pour les personnes sans ressources. Lorsque vous les aidez à gérer un budget, aussi petit soit-il. Lorsque vous les aidez à reprendre de l'espérance, un travail. Ou lorsque vous les écoutez et les consolez. La chute et ses nombreuses conséquences tragiques, que sont la maladie, les dépendances, la malnutrition, l'absence d'abri, l'ignorance, le mensonge, le vieillissement, la criminalité, les guerres, les névroses, la solitude, tout ça offre autant de ministères pour la gloire de Christ et le bien de ce monde déchu. Alors que Dieu vous bénisse et vous utilise puissamment pour faire connaître son amour et son évangile. Ainsi donc, les ministères de la femme sont immenses, sont infinis. Les ministères diaconales sont ouverts aux femmes, puisque c'est notamment ce dont elles doivent, ce dont les diacres, ce que les diacres font, aussi bien qu'aux hommes. Mais là encore, ils doivent satisfaire un certain nombre de qualités. Et puis au verset 15, il est dit, je crois que c'est un autre aspect du ministère de la femme, elles ont une mission particulière auprès de leurs enfants, quand elles en ont, bien entendu. Mais quand elles n'en ont pas, bien souvent, elles s'en occupent d'autres. Elles doivent les instruire et leur faire aimer Dieu et sa parole. Je pense à une mère. Je pourrais en citer bien d'autres. Mais je pense à une qui, avec peu de moyens financiers, a élevé son fils toute seule. L'a conduit fidèlement pendant des années à des clubs d'enfants pour étudier la Bible, aux réunions de l'Église, qui a prié avec lui et pour lui, qui l'a encouragé à suivre des enseignements bibliques par correspondance. Le jeune garçon s'est donné à Christ, il est devenu un véritable disciple, un prédicateur occasionnel, un jeune homme capable d'en enseigner et d'en encourager d'autres. Voyez-vous comment cette femme est devenue dispensatrice de vie. Elle a renversé par son rôle de mère les conséquences de la chute. Et bien entendu, c'est la grâce de Dieu en elle et toute la gloire doit revenir à Dieu. Mais c'est énorme ce travail. Pensez à des femmes qui ont élevé fidèlement de grands hommes, des prédicateurs. Hudson Taylor avait une mère qui priait pour lui. Charles Spurgeon. Tous, il y avait une mère derrière qui a pris soin, qui a encouragé, qui a présenté devant Dieu ses enfants. Suzanne Wesley, et tellement d'autres. Et en faisant ce ministère-là, elles ont renversé les desseins de la chute. Et c'est cela qu'elles peuvent accomplir aujourd'hui. La bonne conduite dans l'Église provient d'une mobilisation de tous autour de la vision partagée, de porter l'Évangile dans les cœurs. Elle se réalise dans de bonnes dispositions de cœur et par l'implication de chacun et chacune selon les rôles que le Créateur a attribués. En se soustrayant à cet ordre divin, l'Église ne fait que perpétuer le désastre de la chute. Et c'est pour ça que c'est tellement important au moment où l'apôtre Paul commence à établir la conduite de l'Église, le rôle des responsables. Il dit, voilà le plan de Dieu. Voilà comment nous conduire. Voilà notre rôle à chacun. Ce qui est merveilleux, c'est que quand on s'engage dans les rôles que le Seigneur nous a confiés, on y trouve une grande joie, une grande satisfaction, une pleine paix. Maintenant, dans ces domaines, dans ces rôles, on a tous échoué. On a tous raté des trucs. On a tous pris des mauvaises décisions. Parce que nous-mêmes, on est affectés par le péché. On est une race déchue. Mais c'est pour ça que l'Évangile doit être au centre de notre vision d'Église. Parce que cet Évangile va restaurer notre relation avec Dieu. Il va nous aider à comprendre quel est notre rôle à chacun. Et puis il va nous aider à le mettre en pratique, à être pardonné quand on a mal fait, et puis à repartir. Alors, que Dieu nous vienne en aide pour mettre en œuvre, eh bien, à la fois la grande vision, avec des cœurs purs, avec pour les hommes sans colère ni mauvaise pensée, et puis les femmes avec toute cette modestie, cette pudeur, et puis chacun jouant son rôle, assumant son rôle. Que Dieu nous vienne en aide par Jésus-Christ. Amen.